Bienvenue chez les protestants de l'église réformée du Bouclier à Strasbourg. Voici la méditation de ce dimanche.
La Pâque juive est proche et Jésus monte à Jérusalem. Il trouve les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fait un fouet avec des cordes et les chasse tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il disperse la monnaie des changeurs et renverse leurs tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prennent la parole et lui disent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Et Jésus leur répond « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les gens disent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Le geste du temple est à la fois un geste classique et puis il va devenir un acte fondateur. C'est un geste classique, prophétique, dans le droit fil de la tradition religieuse que Jésus a reçue. Avec une certaine colère, force, certains disent violence, il dénonce l'instrumentalisation du temple à des fins mercantiles. Nous sommes dans la tradition prophétique d'Israël et Jésus n'est pas le seul à cette époque à se mettre dans une colère prophétique. L'historien romain et juif Flavius rappelle qu'il y a d'autres personnes qui viennent mettre des troubles et du désordre dans le temple. Ce sont des zélotes excités. C'est un geste critique de contestation, de protestation nécessaire dans la tradition prophétique. Et puis, d'autre part, ce geste va prendre une orientation particulière avec ce débat, avec les gens qui sont là, avec ce malentendu sur la durée, 46 ans ou 3 jours, qui va amener les gens présents, et puis du coup les lecteurs, à s'interroger sur le sens de ce geste qui va prendre une signification particulière après la mort et le tombeau vide. Parce que bien souvent, c'est après avoir vécu un événement, c'est en relisant, que l'on voit que quelque chose qui nous apparaît de manière classique va prendre une signification particulière, ce qu'on appelle un acte fondateur. Et puis l'évangile de Jean le marque de manière particulière avec cette parole sur la mort et la résurrection, et en le mettant en début d'évangile. Voilà, c'est curieux. Dans les trois autres évangiles, il est à la fin, ce qui est logique, ce qui est sans doute historique. Mais l'évangile de Jean, qui recompose le récit pour lui donner une signification particulière, place en début d'évangile ce geste, comme pour lui donner une valeur de programme, comme si dans ce geste se résumait, s'annonçait, se concentrait, se récapitulait l'essentiel de l'évangile. Et d'une certaine manière, en parlant de mort et de résurrection, en annonçant cela, on rappelle aussi que l'épisode de la crucifixion et du tombeau vide, qui à l'époque est passé de manière un peu anonyme, un parmi d'autres, qui était là au pied de la croix, presque personne, et même le tombeau vide a été un événement dûment au départ insignifiant. Par la suite, il va devenir fondateur. Alors pour toi, Jean-Philippe, il y a un autre geste dans l'évangile de Jean qui joue un rôle particulier.
Ce geste se trouve au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Là, c'est le dernier soir, la veille de son arrestation. Jésus prend un repas avec ses disciples. Mais contrairement aux autres évangiles, l'évangile de Jean ne nous rapporte pas l'institution de la scène. Il nous rapporte autre chose, à savoir le lavement des pieds. En soi, se laver les pieds à l'époque, c'est aussi un geste banal. Je n'ai personnellement jamais eu l'occasion de marcher en Palestine, mais à voir les photos et à écouter les témoignages, j'imagine bien cette terre très sableuse qui soulève beaucoup de poussière lorsqu'on fait un pas. J'imagine aussi bien les sandalettes poussiéreuses et les pieds un peu noirs, bien sales. Et j'imagine bien aussi le besoin de l'homme ou de la femme de l'époque qui marche sur ces terres poussiéreuses, ce besoin de laver ses pieds. C'est quelque chose que tout le monde fait à l'époque. C'est un geste banal, quotidien, habituel. Mais si tout le monde le fait, c'est néanmoins quand même une tâche ingrate et humiliante, qu'on ne confie pas à n'importe qui. Débarrasser la poussière de l'autre, c'est une besogne que l'on confie aux serviteurs. C'est un signe de respect hiérarchique. L'esclave étranger lave les pieds de son maître ou de son hôte. La femme lave les pieds de son mari, dans un monde patriarcal. L'enfant lave les pieds de ses parents. Les enfants lavent les pieds de leurs parents, vraiment. Et éventuellement aussi, le disciple lave les pieds de son maître. C'est un signe de révérence, un signe de respect. Jésus, lui, en lavant les pieds de ses disciples, bouleverse ses habitudes. Déjà, il se lève au milieu du repas pour faire des ablutions, alors que traditionnellement, on les fait au début. Ensuite, lui qui est le maître, il lave les pieds de ses disciples. Il accomplit une tâche qui ne lui est pas réservée. Il renverse la hiérarchie traditionnelle. Il renverse l'ordre d'infériorité et de supériorité. À travers ce renversement de ce geste simple et banal, Jésus transmet quelque chose. Il transmet quelque chose de fort. À savoir que le maître n'est pas plus grand que son disciple, que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Les relations entre les hommes ne dépendent pas de leur situation. Être disciple d'un maître qui s'abaisse pour servir, c'est accepter de servir et de s'abaisser soi-même pour servir les autres. Dans tout ce récit, le texte ne rapporte aucune parole de Jésus. C'est uniquement après, face à l'incompréhension des disciples, que Jésus va finir par parler avec des mots, qu'il va expliquer son geste. Car au-delà des paroles, c'est avant tout le geste lui-même qui doit parler. Jésus transgresse le symbole qui dit quelque chose pour transmettre symboliquement autre chose, de nouveau. Dans ce récit, c'est ainsi le geste lui-même qui dit quelque chose, qui devient le geste fondateur de quelque chose de nouveau. Ce geste doit provoquer la réaction, il doit interroger, il doit questionner. Sans utiliser de mots, Jésus parle par un geste banal, qui est habituellement insignifiant, mais qui ici signifie beaucoup de choses. Et il me semble qu'il y a des gestes et des paroles qui, toi aussi, ont pu t'interroger, te parler et te questionner.
Et qui deviennent fondateurs.
Qui deviennent fondateurs.
Voilà. Un peu comme le 14 juillet, qui fonderait toute la Révolution française. Ou comme la petite musique de nuit qui résumerait tout Mozart. Ou comme l'appel du 18 juin qui serait l'acte fondateur de la résistance. Ou bien le 31 octobre 1517 pour toute la réforme. Et pourtant, ce geste de Martin Luther, l'a-t-il fait, n'a-t-il pas fait, l'a-t-il envoyé, est-ce affiché? On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais on sait la manière dont on l'a relu et dont on le transmet. C'est un geste classique, habituel, pour les universitaires, de débat, de disputatio académique, un exercice d'étudiant, de professeur, une épreuve classique, mais qui va prendre une autre dimension. Ces thèses vont être diffusées grâce notamment à la révolution de la communication de l'époque, qui est l'imprimerie. On en a une autre révolution actuellement. Ça va être public, comme la Bible est en train de le devenir. Ça va être aussi un événement économique, ne l'oublions pas, puisqu'il dit qu'il n'y a pas besoin de donner de l'argent, c'est-à-dire que les fonds qui sont en Allemagne n'ont pas besoin d'être transférés en Italie. C'était des capitaux énormes. Pensez à ce qui s'est passé cet été à propos de la Grèce. On n'a pas envie que les capitaux aillent en Grèce. À l'époque, c'est pareil. Les autorités préfèrent que les capitaux restent en Allemagne. Donc, merci Martin Luther. Et puis, ça a une dimension religieuse forte. Il va contester le monopole d'un clergé, d'un groupe, à dire le vrai, le beau, le juste. Du coup, ça va se transformer en débat sur l'autorité et le pouvoir dans le monde. Qui a autorité pour dire le vrai, le juste, le beau. Voilà. Cette prise d'autonomie au niveau de la pensée et de la foi va ainsi avoir des conséquences sur la prise d'autonomie des princes et des représentants des villes. Voilà, un geste simple qui rencontre un environnement particulier, un contexte économique particulier, politique, existentiel aussi. Les gens sont préoccupés par l'après-mort, par l'enfer. Regardez les tableaux du XVIe, c'est terrifiant. Mais en fin de compte, ça décalque le vécu de ces gens. La vie est dure. Et ce geste habituel, classique, va devenir un acte fondateur. Alors, quels sont les autres actes fondateurs ? C'est là que la parole devrait circuler entre nous et que nous pourrons le faire au moment du repas. Et peut-être dans les deux années qui viennent, jusqu'à 2017, puisque nous fêterons les 500 ans de ce geste dans deux ans. Alors nous avons fait le choix d'en rappeler certains qui sont les nôtres. Vous en ferez d'autres. Nous venons de vivre la retraite des catéchumènes, enfin le camp des catéchumènes. Ils étaient environ 35, 36, la meute. Et nous avons parcouru une histoire à travers quatre personnages qui, à leur manière, ont fait des gestes classiques, mais qui seront devenus, pour notre histoire, fondateurs. Deux femmes, deux hommes. Marie Durand, 38 années de prison. À cause de sa foi, au 17e. Elle est entrée en prison, elle avait 18 ans. Elle avait perdu son père, sa mère, son frère, son fiancé. Et elle va tenir parce qu'elle a reçu, sans doute aussi par la prière et par la fraternité avec les autres, et va nous laisser, elle, non pas 95 thèses, mais un mot, ce fameux mot, résister. Aujourd'hui, on la connaît, elle est célèbre, elle a ses tableaux, elle a sa tour, mais elle était à l'époque anonyme, perdue, noyée, ignorée, comme Jésus sur la croix. Mais son geste, sa ténacité va devenir un acte fondateur jusqu'à notre histoire récente, puisque ce mot « résister » servira de signe de reconnaissance pour les protestants allemands qui résistaient au nazisme. Une sorte de code. Et puis nous avons abordé un second personnage qui est Lessing, un philosophe, qui lui ne laisse pas 95 thèses ou un mot, mais la parabole des trois anneaux dans Nathan le Sage, que je vous invite à lire, vous tapez sur Internet, où il est question de trois anneaux qui sont donnés aux trois fils comme étant la transmission d'une vérité ou d'une foi pour celui qui vivrait le mieux. Et ainsi est abordée la question de la différence des religions, où ce n'est pas la vérité qui compte, mais la manière vraie de vivre avec les autres qui révèle l'authenticité du croyant. Et puis nous avons abordé aussi Sophie Scholl, elle est moins connue, un peu plus depuis qu'il y a eu ce film. Donc cette jeune étudiante de 20 ans qui, en 1943, à Munich, elle est allemande, est arrêtée, jugée, exécutée en 7 jours. Voilà. Elle ne laissera pas 95 thèses, elle ne laissera pas non plus un mot ou un conte, mais elle, ce sont des tracts qu'elle a diffusés avec ses camarades dans l'université. Et puis elle a tenu. Et dans ce film que les jeunes ont vu, il y a cette capacité tenace à dire ce qui est important, à mettre sa conscience en poids face à l'autorité crapuleuse des nazis. Ce regard et ce parcours qui l'amène à tenir, à résister, même si elle y perd la vie. Et puis le quatrième personnage qu'on a parcouru, c'était Bonhoeffer. Lui aussi exécuté un mois avant la capitulation de l'Allemagne. Il aura passé 2 ans en prison. Et lui, ce sera la question de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Toute vérité est-elle bonne à dire? Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité de manière absolue ou bien la vérité dépend de qui est là, de quel environnement, de quel contexte? Et lui, il nous laissera une histoire, celle d'un maître et de son élève. Qu'est-ce qu'on peut dire entre un adulte et un enfant, entre un professeur et un élève, dans certaines circonstances? Alors voilà ces 4 parcours que je vous invite à redécouvrir dans 3 semaines, lorsqu'ils animeront le camp de retour, le culte de retour. Alors aujourd'hui, quels sont d'autres gestes? Alors je vais en dire des plus personnels, puis tu termineras. J'ai vécu en Palestine en tant qu'étudiant en 1987-88 et donc j'ai vécu la première intifada à Jérusalem-Centre, puis à Jérusalem-Est. Et c'est vrai que lorsque le 13 septembre 1993, peut-être vous en souvenez, lorsque le premier ministre Yitzhak Rabin, ministre israélien, et puis le président du comité exécutif de l'OLP à l'époque, Yasser Arafat, se serre la main, j'ai eu une certaine émotion, parce que j'avais vécu cette année. Et je me dis, si ces 2 personnages, qui ne sont pas tout roses, qui sont même discutables, en arrivent à se dépasser pour se donner la main et essayer d'avancer sur une autre direction, c'est un acte fondateur. Et puis j'ai été amené à travailler aussi dans la commission Couple, Famille, Société de l'Église réformée de France, et notamment on avait travaillé sur l'évolution de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Et donc j'ai été amené à visionner, vous pouvez le faire, le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale le vendredi 26 novembre 1974. un discours classique d'un ministre ou d'une ministre qui défend un texte du gouvernement, mais avec le retour, avec l'histoire, je pense que ce discours avait d'une certaine manière rendez-vous avec l'histoire. 3 jours de débat, une femme face à 421 hommes députés et 9 femmes députées, qui prononça un des discours les plus controversés. Je pense que c'est devenu un acte fondateur. Et puis un troisième exemple que j'ai découvert grâce au bouclier. On va au cinéma, on est allé voir des films, notamment L'exercice de l'État. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Et à un moment donné, il y a le haut fonctionnaire, un énarque, qui est chez lui. C'est lui qui fait tourner le ministère. C'est l'exemple même du serviteur de l'État. Le ministre est toujours très occupé partout. Et il fait à manger pour un camarade. Il écoute en boucle le discours d'André Malraux pour l'accueil des cendres de Jean Moulin. Alors, vous le connaissez peut-être bien, ce discours. Vous pourrez le regarder sur Internet aussi. Alors Jean Moulin, qui est aussi un personnage controversé, termine ce discours avec son pathos, c'est un grand comédien, voilà. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé ce jour-là. Elle était le visage de la France. Première fois que je l'ai entendu, je suis resté un peu silencieux. Un ministre controversé, mais qui à ce moment-là fait un discours où le personnage central, qui devient image d'une communauté, est la figure d'un supplicié, d'un vaincu, d'un humilié, j'ai envie de dire d'un crucifié. On est en plein Vendredi Saint. J'ai trouvé ça très fort. En tout cas, ça m'a touché. Alors j'avais d'autres exemples, mais je vais terminer par des exemples personnels. J'ai été amené à lire, à cause de ma mère, un livre qu'elle disait qui l'avait marqué. Ce livre, c'est « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir. Vous l'avez lu ? Je l'ai lu parce que ma mère m'avait dit une fois comme ça, oh, c'est un livre qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup apporté. Et je dois dire que je l'ai lu et que alors j'ai mieux compris ma mère. Et que d'une certaine manière, cette lecture, cet écrit, ce personnage de Simone de Beauvoir, elle aussi controversée, est devenu, dans ma relation familiale, un élément fondateur de compréhension, d'acceptation. Et j'ai envie de dire aussi d'amour. Et puis à l'âge, un peu avant, à l'âge de 14-15 ans, j'étais malade chez moi et j'ai reçu, pour la première fois de ma vie, la visite du pasteur. Je ne savais même pas que le pasteur se déplaçait pour voir des malades. Et j'étais très étonné. Comment quelqu'un peut se déplacer pour moi ? En plus, il n'a rien à me demander, j'ai rien à lui apporter, il vient juste pour me demander des nouvelles et pour me dire que j'ai de l'importance pour lui. Et je pense que ce geste classique, habituel, d'une présence, d'une visite, d'un déplacement, d'un monsieur important, qui est en costume cravate, pour un jeune adolescent, a marqué un geste habituel qui devient fondateur. Tiens, j'ai de l'importance pour celui qui représente une communauté, une église, une histoire, une tradition, une théologie, la Bible, Dieu. Je vais un peu loin. Voilà. Voilà. Mais c'est important aussi de voir en quoi certains événements personnels nous marquent. Voilà. Et puis, dernièrement, c'était il y a exactement une semaine, nous étions avec Marie Durand, avec un groupe de catéchumènes. Et puis, il y a une jeune qui a dit, pour moi, la prière, c'est trois choses. C'est dire merci, demander pardon, et puis dire ce que j'aimerais vivre demain. Voilà. Alors, c'est peut-être très classique, c'est ce qu'on retrouve dans le déroulement du culte, mais j'ai trouvé fort que cette jeune exprime avec sa simplicité, pour moi, parler aux autres, mais aussi parler à Dieu, c'est dire merci, reconnaître les erreurs, dire pardon, et puis se projeter et dire voilà ce que j'aimerais. Je ne vais pas plus loin, hein. J'en ai encore quatre, mais ça sera pour le repas. Un geste classique qui devient fondateur, Jean-Philippe.
La question qu'on peut poser aujourd'hui, alors qu'on fête la réformation de façon un peu anticipée, c'est quel geste aujourd'hui pouvons-nous poser pour transmettre ce message de la réformation ? Alors aujourd'hui, si Martin Luther revenait avec ses 95 thèses, je doute que ça intéresserait grand monde. C'est trop long, 95 thèses, ça si difficilement. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Quels sont aujourd'hui les gestes qu'on peut poser ? Le monde d'aujourd'hui ne fonctionne pas comme le monde du XVIe siècle. Il faut donc passer du temps aussi à réfléchir à notre monde, à comment il fonctionne, pour essayer de trouver les gestes, les actes fondateurs qui pourront poser l'avenir de cette réformation que nous fêtons aujourd'hui. Nous passons aujourd'hui d'une culture de l'individualité rationnelle, une culture du livre, une culture de l'intellect, une culture du sujet rationnel, autonome, à une culture qui est davantage de l'ordre de la tribu émotionnelle. Une tribu qui n'efface pas l'individu, mais qui l'insère dans un réseau multiforme et complexe. Aujourd'hui, chaque individu, vous et moi, nous sommes tous devenus le centre d'un réseau unique. Nous appartenons tous à différents cercles sociaux, qui forge notre propre réseau personnel. Moi-même, j'appartiens à plusieurs cercles. J'ai le cercle de mes amis d'enfance. J'ai le cercle de mes camarades d'université. Il y a le cercle des gens que j'ai pu rencontrer dans mon engagement dans les églises protestantes. Il y a le cercle de ceux que j'ai rencontrés lors d'organisations de concerts et d'événements. Il y a ceux que j'ai pu rencontrer dans l'engagement aussi. Les personnes avec qui j'ai pu partager, discuter, en ligne, sur Internet aussi. Je suis, moi, Jean-Philippe, le cœur d'un réseau plus vaste que moi-même, composé de différents cercles, composé de différentes aspirations, et je joue un rôle central dans la mise en relation de ces cercles. En d'autres termes, je suis, quelque part, un carrefour, comme chaque personne. Et si nous voulons aujourd'hui que le message de la Réformation ne soit pas simplement un passé glorieux qu'on célèbre une fois par an, mais aussi notre futur, il nous faut comprendre que nous sommes justement tous des carrefours. L'avenir de la Réformation se joue dans chacun d'entre nous. Il ne faut pas aujourd'hui attendre une institution, une église, un mouvement. Il ne faut pas attendre un Luther ou un Calvin qui saurait répondre et parler à toutes les préoccupations complexes du monde occidental contemporain. Chacun d'entre nous, par ses différents cercles, par ses goûts, ses choix, ses aspirations, son réseau, chacun d'entre nous est habilité d'une manière particulière pour incarner les gestes qui parleront à la diversité des êtres humains qui composent ce monde. Aujourd'hui, c'est à nous de poser les actes fondateurs. C'est ainsi un chantier à la fois individuel et collectif que nous avons devant nous. Individuel parce qu'il nous concerne chacun dans nos aspirations propres, notre propre réseau, dans la manière dont nous pouvons incarner les valeurs de la Réformation par des gestes par des paroles symboliques qui vont parler aux autres et qui vont être fondateurs pour eux. Mais ce chantier est aussi nécessairement collectif, car nous avons aujourd'hui besoin les uns des autres. Je ne peux pas faire tout seul. Je ne résume pas à moi tout seul la société d'aujourd'hui. Pierre non plus. Aucun d'entre nous. C'est ensemble que nous pouvons réussir à poser les gestes qui parlent, à poser les actes qui seront fondateurs pour les personnes qui nous entourent. Les églises ont besoin de notre diversité d'aspirations, notre diversité de langage, notre diversité de sensibilité, pour pouvoir transmettre quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un vaste chantier qui s'ouvre devant nous, un chantier de réflexion. Avant de poser les gestes et les gestes parlants, les actes fondateurs, quelles sont aujourd'hui les idées et les valeurs que nous pouvons apporter? Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée du protestantisme? Où est-ce que nous pouvons apporter quelque chose aujourd'hui? Ce sont des questions que je laisse volontairement ouvertes, des questions avec lesquelles nous pouvons cheminer dans l'année à venir, dont nous pouvons discuter au repas, mais des questions fondamentales pour réfléchir ensuite à la manière dont nous pouvons incarner ces valeurs, dont nous pouvons vivre ces choses dont nous avons hérité et que nous aimons aussi hériter, faire hériter aux autres.
Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction en parole, en silence, qui vous parle de Dieu, du monde et de vous.